Ah, je suis heureux de vous annoncer que nous sommes mardi soir. Et surtout, que vous êtes sur Radio G au 101.5 FM.
Qu'est-ce qui se passe ?
21h, l'heure du crime en Anjou. On espère que vous allez bien verrouiller la porte de votre entrée, que vous ne tournez pas le dos à une fenêtre ouverte. Quelle drôle d'idée, absolument pas de saison. Et que vous êtes sûr du contenu de cette bouteille dont vous venez de vous verser un petit verre. Alors, au sommaire de cette émission, qu'est-ce qu'on me dit ? Il faudrait que je reprenne depuis le début ?
Oui.
D'accord. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que nous sommes mardi soir et surtout que vous êtes sur Radio G au 101.5 FM. 21h passées maintenant de quelques grosses secondes, l'heure du crime en Anjou. On espère que vous avez bien verrouillé la porte de votre entrée, que vous ne tournez pas le dos à une fenêtre ouverte, quelle drôle d'idée, absolument pas de saison, et que vous êtes sûr du contenu de cette bouteille dont vous venez de vous servir un verre. Au sommaire de cette émission, la toute première fois de Luc avec Didier Denynx, une interview passionnante de Chaïm Elka au sujet de son roman Sarasqueta à la Manufacture de Livres, un coup de projecteur sur un film noir avec Jack Nicholson et Faye Dunaway, et notre quiz musical. Le saxo aujourd'hui vous accompagne du début à la fin, comme quoi la musique adoucit les meurtres. Salut Linda, salut Luc, salut Toups.
Hello.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ça va, oui.
Ça gazouille.
Aujourd'hui, Jean-François Micard, notre gizmo à nous, est à la programmation musicale, enfin pour un morceau. Celui qui vient, car l'émission est dense. Vous écoutez Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique, maestro.
our war against transcendence, we made up your mind for you. We'll burn it all down and call it progress anew. We'll put you all in chains and call it freedom, mind you.
Radio G 101.5 FM.
Alors, d'après mes sources Gizmec, vous écoutiez Parlez-vous Hate de Rome, un projet solo luxembourgeois et non pas italien, ayant évolué du néo-folk, me dit-on, au néo-classique, vers un folk-rock misanthrope. Alors, il paraît que Rome a l'art de poser les questions qui fâchent, ce qui nous amènera en toute fin d'émission à notre quiz musical du jour. Pour l'heure, nous revenons à la toute première fois de Luc avec Didier Denynx. Alors Luc, c'était comment ?
Ah, cette toute première fois, pour cette chronique, voilà, moi je voulais parler d'un de mes auteurs de prédilection dans le genre, et j'ai nommé Didier Denynx. Denynx, c'est le seul auteur dont je suis incapable d'écrire correctement le nom. Et pour l'occasion, c'est de Mort au premier tour dont il va s'agir. Son tout premier roman, publié en 1982 au masque, mais daté en réalité de juillet 1977. Et vous allez voir que ça a son importance. L'action se déroule au moment des élections municipales de 1977. Les élections avec un grand E majuscule pour tout militant de gauche qui se respecte. Ces élections qui furent qualifiées de vague rose, l'union de la gauche, je vous parle d'un temps, a raflé 155 des 221 communes de plus de 30 000 habitants, dont Angers, avec le succès de Jean Monnier. Ces élections ont vu aussi l'émergence forte des écologistes. Au soir du premier tour à Marzheim, en Alsace, ville de moins de 3500 habitants, puisqu'on y vote en panachant les listes, justement, les écolos décrochent le pompon puisque tous les membres de leur liste obtiennent la majorité. L'inspecteur Cadin, jeune inspecteur en fin de formation au poste en commissariat de Strasbourg, bénéficie d'une semaine de vacances et visite les alentours de Strasbourg. Le dimanche 13 mars, il est justement à Marzheim et il assiste à la déconfiture du maire. Le lendemain, il est envoyé à nouveau à Marzheim parce qu'on y a trouvé un homme mort déposé dans la benne d'un tractopelle sur le chantier de construction d'une centrale nucléaire, celle de Fessenheim. Le mort, c'est Alain Dienta, dit l'Indien militant à la CFDT, mais surtout élu la veille sur la liste des écologistes. La perquisition à son domicile a permis de retrouver tout le matériel du parfait petit drogué. Très vite, l'enquête va donc se tourner vers les jeunes drogués, présentés comme toxicomanes, mais aussi engagés dans l'association Antineutron qui milite contre l'installation de la centrale nucléaire. Ils écoutent Bernard Lavillier et Tangerine Dream, c'est vous dire. Les soupçons de l'inspecteur Cadin se tournent vers un des membres de la bande, Gérard Moreux. Celui-ci couche avec une Michelle Shelton, une jeune franco-américaine, petite copine d'Alain Dienta. Le meurtre serait finalement affaire de coucherie. Mais ça semble bien trop simple. Le commissaire Bruck de Marzheim oriente un peu trop l'inspecteur Cadin. Et celui-ci sent bien que l'affaire n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Il élucidera et on se rendra compte que les turpitudes de nos gens de pouvoir ont une constance qui traverse allègrement les années. Ce petit roman de 158 pages est une petite capsule spatio-temporelle. la fin des années 70, une société bouleversée par mai 68 où la jeunesse s'émancipe. On y lisait un journal extraordinaire, La Gueule Ouverte, qui promouvait une écologie radicale. On écoutait du krautrock, Kraftwerk ou Klaus Schulze. Alors une question. Mais bon sang, pourquoi Didier Denning a-t-il éprouvé le besoin de réécrire ce roman 20 ans après, en 1997 ? A-t-il voulu jouer Alexandre Dumas ? Dans l'édition Folio, il est dit qu'il n'en a repris que les trois premières phrases. Oui, mais il l'a rallongé de près de 80 pages. C'est sûr, il est beaucoup plus écrit que la première version, mais c'est devenu un roman insipide où la littérature tue l'énergie. Didier Denynx n'a de cesse de vouloir présenter des certificats de bonne pensée de vraie gauche citoyenne. Déjà en 77, il avait en horreur toutes ses pensées écolo-gaucho-libertaires. Alors il assaisonne cette deuxième version de détails qui montrent sa connaissance de l'époque, mais où des anachronismes se glissent. Par exemple, il situe l'incident de Three Miles Island en 1977, alors qu'il n'a eu lieu qu'en 79. Dans cette deuxième version, il use, et s'en est fatigant, du name-dropping pour montrer sa connaissance de l'Alsace. Mais je mets quiconque au défi de longer la Thur en allant de Mulhouse à Strasbourg ou de faire l'itinéraire Endisheim-Wittenheim-Staffelfelden pour aller de Strasbourg à Mulhouse. Cerise sur le gâteau, la fin de la deuxième version est d'une grande pauvreté, pas à la hauteur de la problématique de l'implantation d'une centrale nucléaire, alors que dans la version de 77, elle était tout à fait politiquement incorrecte. J'aime Didier Denynx, mais je dois avouer que Mort au premier tour, version 97, n'est qu'une boursouflure. Si vous voulez comprendre ce qu'a été cette période des années 70, n'hésitez pas, lisez la version 77 publiée au Masque. C'est imparfait, certainement, mais c'est bourré d'énergie, cette énergie que l'on retrouvera plus tard chez des Jonquet ou des Fajardi. Mais ceci est une autre histoire.
Ah là là, j'aime beaucoup les autres histoires. Et j'aime beaucoup Frédéric Fajardi. Merci Luc. Didier Denynx, quand même, je le rappelle, c'est Meurtre pour mémoire aussi. Et puis, chez Verdier, il n'y a pas longtemps, il avait sorti une somme de nouvelles réunies sous le titre « Le roman noir de l'histoire ». Mais voilà, c'est l'heure de partir à la rencontre de Chaïm Elka à l'occasion de la sortie de son deuxième roman à la Manufacture de Livres. Alors, dans Sara Cuesta, un court roman aussi précis, Chaïm Elka revient sur la vie tourmentée d'un homme qui a vécu l'histoire avec un grand H majuscule, parfois de façon égoïste, à travers un épisode de chasse dans la forêt, épisode qui pourra prendre des allures fantastiques. Derrière ce titre étrange de Sara Cuesta.
Oui.
J'ai du mal ce soir. Se cache un fusil de chasse modèle Eder G de 1909, conçu par l'armurier royal du nom précité que je ne reciterai donc pas.
On ne prend pas de risque. Hein.
Non, je ne prendrai pas le risque. L'histoire avec un H minuscule, elle se déroule en 1936 en Espagne. Alors, si la guerre civile remonte forcément à l'esprit du lecteur, elle ne sera abordée que de façon ou figurative ou allégorique ou imagée par l'auteur. Ce qui intéresse plus particulièrement Chaïm Elka, c'est la trajectoire ordinaire de son protagoniste, j'ai nommé Alfonso Gutiérrez, qui a bien des parts d'ombre. Au début de l'intrigue, il s'arme pour aller chasser dans la forêt avec ses deux chiens. Il a la vie derrière lui et sa mort devant. C'est dans la forêt qu'il va croiser l'homme en noir. Ce dernier abat ses chiens, non sans lui faire des signes de connivence, des petits coucous. Puis il blesse Alfonso qui commence à fuir cet homme qui le poursuit à la fois inlassablement mais en même temps avec tout son temps. Il prend tout son temps pour le poursuivre. Alfonso, lui, se met à compter et à économiser ses munitions. Surtout, il revient sur son passé, sur ce qu'il a fait, sur les promesses non tenues et sur ses faiblesses à lui. On apprendra ainsi qu'il a traversé l'Atlantique pour aller faire fortune aux États-Unis, mais qu'un coup du sort, entre guillemets, l'a fait revenir en Espagne et à vivre un drame familial dont il porte aujourd'hui encore le fardeau, les stigmates pour tisser la métaphore religieuse. Petit à petit, Chaïm Elka dresse le portrait d'un homme tourmenté, dévasté par une époque dévastatrice, sans un instant le juger. Alfonso n'est pas un personnage picaresque, même si le roman est placé sous son sceau. C'est plus un personnage mythologique. La mythologie, voilà qui est important dans l'écrit de Chaïm Elka. Absolument pas mythique, berné par des illusions, bercé par des rêves, et qui a dû se prendre la réalité de pleine face. Alors il a fait des choix de conscience dont il paie enfin le prix dans la forêt. L'histoire, elle se déroule à travers de trop maigres pages, sans pathos, avec un style parfois d'une froideur crue. Il y a de la tendresse implacable dans la prose de l'auteur et une jolie poésie sombre. Il sera difficile de quitter l'atmosphère de ce roman qui est une variation fine sur le prédateur qui devient une proie. Sarasqueta de Chaïm Elka, c'est à la Manufacture de Livres. On écoute maintenant la lecture musicale de Linda, puis l'interview de l'auteur.
Le crépuscule phagocytait l'horizon déjà. En se retournant, Alfonso vit que son poursuivant s'était rapproché, tout en conservant une distance, empêchant la révélation de ses traits. Se déplaçant avec discrétion et célérité, il le saluait, comme d'un ami à un autre. Apparut une enclave rocailleuse. Alfonso s'y précipita. Les blocs massifs lui permirent d'adopter la position du tireur couché. Il étouffa un râle quand sa jambe blessée heurta le sol. Éjectant les cartouches toujours brûlantes, il s'empara de deux nouvelles dans sa gypsière. Comptant rapidement, il constata avoir à disposition, en tout et pour tout, 11 tirs. Par un créneau de la roche, il fit dépasser le double canon de son Sarasqueta. L'homme en noir le saluait encore. Bascule refermée, Alfonso s'apprêtait à tirer comme on le lui avait appris durant son service militaire, avec un Mauser Gewehr 1893. Être le plus lourd possible, viser, ligne de mire, cible, retenir sa respiration, ouvrir le feu. Coup sur coup, il appuya sur chaque détente. Au pied de l'homme noir, la poussière explosa en fumerolles. L'appareil fut rendu à Alfonso. Les plombs giflèrent les pierres. Une escarbille abîma son cuir chevelu au-dessus de l'oreille droite et il roula sur le côté afin de s'abriter. Il passa deux doigts sur le sillon creusé par l'invisible petit soc chauffé à blanc. Ceux-ci se maculèrent de sang, de rage. Il rechargea et fit feu deux fois. Plus que 7 cartouches dans sa gypsière. 7 tirs. L'homme en noir le saluait. Il aurait tellement voulu savoir, hurler pourquoi, mais aucune réponse ne viendrait. Une vérité se gravait en lui. Un homme comme celui-ci, qui faisait ainsi usage de son fusil, n'était pas du genre à donner une quelconque explication.
Chaïm Elka, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
De rien, c'est nous, on est ravis. Qu'est-ce que ça signifie ce mot étrange, Sarasqueta?
Alors, Sarasqueta, enfin, en espagnol, on essaie de le prononcer Sarasqueta. C'est Tout simplement, je vais essayer de pas déflorer l'intrigue du roman, c'est la marque du fusil. Voilà, le fusil dans le fusil de chasse en l'occurrence dans ce roman a une importance capitale. C'est j'ai voulu montrer qu'en Espagne dans ces années-là, dans les années 30 et après, parce que je l'ai connu personnellement dans les petits villages, dans la campagne, la chasse, le chasseur et le fusil avaient une importance hors capitale, je ne sais pas, mais avaient de l'importance. Il y avait chez les hommes, c'était comme une extension de leur virilité, un symbole de leur virilité. Et donc le fusil accompagnait les paysans quand ils travaillaient. Et souvent, et je peux en témoigner, une fois que le travail des champs était terminé, il y avait un temps de chasse. Et après, bien sûr, il y avait des jours de chasse. Et la chasse, plus que pour ramener du gibier, pour nourrir sa famille, alors, est-ce qu'on nourrit vraiment sa famille avec ça, mais le fusil de chasse était quelque chose qu'on cachait, mais qu'on montrait, dont on prenait soin, on le laissait au fils de la famille, petit à petit, c'était initiatique, finalement. C'est pas qu'un... C'est bien sûr un symbole viril, mais c'est aussi quelque chose qu'on se transmet, entre père et fils, entre grand-père et petit-fils. Donc... Sarasqueta, c'est un fusil de chasse très particulier qui avait été. C'est la marque de l'armurier royal Victor Sarasqueta, qui a vécu au début du 20e et un peu après, et qui créait des fusils qui étaient connus pour leur efficience. Voilà.
Qui est ce personnage d'Alfonso et que représentent ces chiens justement?
Alors Alfonso, c'est quelqu'un qui s'inscrit totalement dans, d'après moi, après le lecteur se fera son propre avis, mais qui s'inscrit totalement dans une époque, à savoir une époque, les années 30, les années 20, une époque de dureté, de misère. En Espagne, c'était vraiment la misère, de difficulté à s'en sortir, où il fallait travailler dur. Donc c'est quelqu'un qui est simple, qui a été un peu à l'école. C'est quelqu'un, comme beaucoup de gens à l'époque, a tenté sa chance ailleurs, donc dans le roman, en Amérique, qui a dû revenir. Donc c'est quelqu'un qui aussi a vécu une frustration. Voilà, qui a vécu une frustration, et de cette frustration découlera certains événements. C'est aussi quelqu'un qui est très marqué, à mon sens, par la religiosité. Mais une religiosité, donc catholique bien sûr, mais une religiosité de tradition, basée essentiellement sur la peur. La peur. Alors, on pouvait tout à fait vivre en ayant peur, mais en commettant certains actes. Après, la pensée permet de les justifier, de les tordre un peu, pour les mettre un peu de son côté, pour les revendiquer, mais disons pour vivre avec. Et Alfonso, donc, c'est un homme, c'est un paysan qui un jour part chasser, lors de séances de chasse, après le travail. Et voilà, il est la victime d'une traque. Et il ne comprend pas. Et cette traque va lui permettre de se replonger en lui et de peut-être de faire un état des lieux de sa vie et d'en tirer certaines conclusions ou pas. Donc Alfonso, pour moi, était symbolisé un personnage, un type de personne que j'ai la chance de fréquenter parce que ma mère est issue de ces petits villages espagnols et où on voyait que le passé, en l'occurrence la guerre civile et même avant, et puis la guerre civile et ensuite la période de la dictature en Espagne, voilà, c'est quelqu'un de très marqué, quelqu'un qui va rentrer dans une période trouble. Difficile, comment dire, quelqu'un qui est héritier de quelque chose. Il porte un legs en lui. Le fait que vous me posiez cette question me renvoie à un auteur qui m'a beaucoup influencé dans ma jeunesse et même pour ce livre, c'est Camilo José Cela, qui a été prix Nobel en 1989 de littérature, un des plus grands écrivains espagnols pour moi, qui a écrit La Ruche et qui a créé un courant littéraire qui s'appelle le tremendismo, c'est-à-dire le terrible. Voilà. C'est une écriture qui est dure, travaillée, mais qui amène des choses terribles. Et des fois, le terrible n'a pas de sens. L'acte, des fois, n'a pas de sens. Et on retrouve très bien ça dans une de ses nouvelles qui s'appelle « Le joli crime du carabinier », que j'encourage tout le monde à lire. Et on se rend compte que l'acte d'un des personnages, les actes, n'ont pas de sens. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et je dis pas que dans mon roman c'est comme ça, mais voilà, ça m'a inspiré. L'aspect terrible de ces terres, de ces manières de vivre, m'a beaucoup inspiré.
En quoi les histoires malheureusement ordinaires, elles sont fascinantes ?
Parce qu'elles sont, je trouve qu'elles sont déjà beaucoup plus touchantes, beaucoup plus parlantes. Alors bien sûr, je vais dire un lieu commun, on s'identifie, on se projette, on s'y retrouve, mais c'est vrai. Et c'est beaucoup plus parlant parce que les histoires banales du quotidien, même avec les moments de guerre civile, hein, c'est, voilà, ou de conflits importants, de mésententes, de malentendus, de haine, de rancœur, et ben, finalement, c'est des histoires qui nous touchent parce que nous avons été amenés à les vivre, nous pourrions les vivre, et on a toujours quelqu'un dans la famille, une connaissance qui a vécu ça, qui en a parlé. Et moi, je trouve que c'est peut-être le lien avec le fait divers. Alors, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais le fait divers touche, remue, nous fait réagir, bah, parce que ça pourrait être nous. Et donc, les histoires du quotidien, le banal, un paysan qui est traqué, un paysan qui va chasser, qui finit sa journée de travail comme Alfonso, moi, ça me permet, en tout cas, oui pour ma part, hein, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Déjà, je m'y retrouve de par mon histoire familiale, de mon histoire personnelle, de par les thèmes qui m'intéressent. Et je m'y retrouve tout simplement parce que c'est un langage qui, m'étant familier, me permet de réfléchir, bien sûr, mais surtout l'écho. Voilà, la résonance, la vibration qui émane de ça, non pas qu'elle me rassure ou me réconforte, mais est claire. Elle est lisible. Alors les grands romans, bien sûr, avec des grands thèmes, le fantastique, tout ça, c'est très bien, hein, je suis lecteur de ça aussi, mais le banal, le quotidien, la normalité, qui tout d'un coup va basculer, moi, me fascine quelque part, me fascine parce que je me dis que moi aussi, je peux être au bord du ravin. Moi aussi, je peux être sur la pente à un moment donné. Et peut-être que j'y serai, peut-être que j'ai déjà été, peut-être qu'on a tous été, vous, nous, tout le monde. Et c'est le bord du ravin, la falaise. Est-ce que je vais tomber? Est-ce que dans cette pente, je vais m'engager tout en sachant que je n'en reviendrai pas? C'est un peu Sisyphe, hein, quelque part. Enfin, je sais pas si c'est le bon mythe, mais il y a ça. Ça, je trouve que la banalité et la normalité, enfin banalité, est-ce que c'est banal, mais la normalité, le quotidien, comme vous avez dit, est quelque chose qui est, comment dire, beaucoup plus répercutant en soi.
C'est quoi pour vous écrire ?
Ah, vaste question. L'ordonnancement des mots, je ne sais pas si c'est correct, mais la manière d'ordonner les mots est avant tout musicale chez moi. Je ne peux pas être plus précis, plus détaillé. C'est de la musique, c'est de l'écoute, c'est de l'oreille, c'est la main et l'oreille et la musique sont totalement liées, enfin dans ma manière d'écrire, humblement, et j'essaie de donner un rythme, voilà. Difficile à expliquer, difficile à théoriser, mais j'essaie vraiment de donner un rythme comme une scansion. Comme vous l'avez lu, vous avez remarqué qu'il y avait des phrases qui pouvaient être très courtes et des phrases très longues qui sont sous forme de scansion avec des répétitions, comme une forme de, pas de redondance, mais une répétition rythmée qui fait que j'ai tenté d'appuyer sur ce que Alfonso vivait. Parce que je me suis dit, dans le cas de ce roman, que quelqu'un comme Alfonso, finalement, sa vie était très répétitive, très routinière. Et peut-être prendre cette répétition et cette routine et en faire une psalmodie, comme un psaume, quelque chose comme ça. Et ma manière d'écrire, en l'occurrence, plus généralement, va en ce sens.
Chaïmeka, avant de passer à la dernière question, qui sera la sacro-sainte question du « On écoute quoi comme musique ?», je rappelle le titre de votre roman avec mon mauvais accent espagnol, Sarasqueta. C'est à la manufacture de livres et c'est un chouette moment d'évasion. Alors, on écoute quoi comme musique maintenant?
Alors, j'ai choisi un musicien qui n'est pas très connu, je ne sais pas, mais disons que c'est pas les grandes stars de rock'n'roll, c'est Jason Molina. Jason Molina est un musicien qui est mort il y a quelques années, à 39 ans, des suites d'alcoolisme. Et c'était un musicien extraordinaire, un musicien qui a eu plusieurs groupes. Et son groupe, Songs Oya, a fait un album qui s'appelait Electric Co. Et dans cet album, que j'encourage tout le monde à écouter parce que c'est tout simplement prodigieux, il y a une chanson qui s'appelle John Henry Split My Heart. J'espère que je le prononce bien. Et cette chanson, qui dure plus de 7 minutes, je crois, et qui montre tout le talent de guitariste de Jason Molina, avec sa voix un peu comme ça, un peu fausse des fois, un peu tremblante, mais qui est tellement sensible. Cette chanson évoque le mythe, la légende aux États-Unis à la fin du 19e siècle, si mes souvenirs sont bons, de John Henry. C'était John Henry était un ouvrier qui travaillait sur le chemin de fer pour raccorder l'Est et l'Ouest. Un jour, est arrivée la machine, le marteau pneumatique pour taper sur les rails et mettre en place. Et John Henry, tenancier du travail physique et viril, a décidé de défier la machine pour montrer que les ouvriers n'étaient pas morts. Que la machine, ouais, c'était bien, mais l'ouvrier avant tout, l'humain. Et il a défié la machine pour voir qui était le plus fort. Et il a gagné, mais cette victoire lui a coûté une crise cardiaque et il en est mort. Voilà ce que va vous offrir Jason Molina.
Eh bien, c'est ce qu'on va écouter maintenant. Alors, peut-être pas en intégralité, parce que 7 minutes, c'est super long pour nous à la radio. Jaïm Elka, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup.
Et c'est moi. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt, au revoir.
Stood on the 66 highway. I stood on the 66 highway. Wisteria, magnolia, beside the green line track.
Radio G, 101.5 FM.
Vous écoutiez John Henry Split My Heart, que l'on trouve dans l'album Magnolia Electrico du groupe Songs Oya avec Jason Molina à la guitare, un choix musical de Shay Melka. Je vous rappelle le titre de son roman que je vais recopier 50 fois pour pas me tromper la prochaine fois, Sarastreta. C'est à la manufacture de livres. Sans transition, on file vers notre écran noir de la quinzaine. Aujourd'hui, on revient à des bases du film noir en 1974. Le film est réalisé par Roman Polanski et il nous emmène à Los Angeles. Mais Luc va nous en parler mieux que moi, pas vrai Luc ?
Mais bien entendu, oui, l'histoire se passe dans les années 30 à Los Angeles. Le détective privé Jack Gitz, impérial Jack Nicholson, est embauché par Evelyn Murray pour enquêter sur son mari qu'elle soupçonne de le tromper. Son mari, Hollis Murray, est ingénieur au service des eaux de la ville. Il s'oppose à la construction d'un barrage qui permettrait d'approvisionner en eau Los Angeles et les fermiers alentour. Jack Gitz, en bon détective privé, prend des photos de Murray et avec une jolie femme. Mais il est plus futé que ça. Quand on découvre le corps du pseudo-mari batifoleur noyé, il se doute bien qu'on essaye de l'emberlificoter. Au cours de l'enquête, il découvre que l'adjoint de Murray, Yael Burton, joué par John Hillerman, qui prend sa succession, est favorable au barrage. Et il découvre en allant au domicile de Murray que la vraie Evelyn Murray, convaincante Faye Dunaway, n'a rien à voir avec celle qui est venue lui demander d'enquêter. Ça sent vraiment mauvais. Et patiemment, avec une certaine nonchalance élégante, Jack Gitz remonte la piste jusqu'à Noah Cross, joué par le vieux cheval de retour John Huston, ancien associé de Hollis Murray. Il découvre que l'absence d'eau est une supercherie, qu'en réalité le fameux barrage va servir à irriguer les orangeries près de LA, que des terrains ont été achetés par des résidents d'une maison de retraite qui n'en savent rien. Le film est d'une maîtrise parfaite, la reconstitution des années 30 est brillante. Jack Nicholson fait un vrai défilé de mode au point qu'on croirait feuilleter un numéro du Harper Bazaar, mais de Chinatown, on n'en verra que 3 minutes, montre en main.
Eh bien, on va écouter un extrait tout de suite du film, qui est là, il n'y en aura pas pour 3 minutes, il y en aura pour 1 minute.
Mr. Gittes.
Yes.
Do you know me?
Well, I think I would have remembered.
Have we ever met?
Well, no.
Never?
Never.
That's what I thought. You see, I'm Mrs. Evelyn Mulray. You know Mr. Mulray's wife?
Not that Mulray.
Yes, Mr. Gittes, that Mulray. And since you agree with me that we've never met before, you must also agree with me that I've never hired you to do anything, certainly not spy on my husband. I see you like publicity, Mr. Gittes. Well, you're going to get it.
Now, wait a minute, Mrs. Mulray. I think there's been some misunderstanding here. There's no point in getting tough with me.
I don't get tough with anyone, Mr. Gittes. My lawyer does. Mr. Gittes.
Ah, j'aime beaucoup cette réplique. Linda, elle évoque quoi en toi ?
Laquelle ?
Celle-là, celle qu'on vient d'entendre. C'est la première.
My lower does.
I never get tough with anybody.
C'est quand même la rencontre entre Jack Nicholson et Faye Dunaway dans le film.
Ah non, mais moi je suis fan de tout le film. Donc, si tu veux, je bois les paroles en permanence. Donc, voilà. Je sais pas, rien de spécial. De plus, de moins.
Qu'est-ce que tu voulais
entendre, toi ?
Ben, moi, ça me semblait être un des moments les plus jouissifs du film. C'est-à-dire qu'il arrive, il raconte sa blague du chinois parce qu'il a entendu une blague
qui est très très pourrie d'ailleurs. Cette blague.
C'est vraiment bien une blague de bistrot. Oui.
Ah, ouais.
Elle est à rallonge.
Et il la raconte et il ne sait pas qu'elle est dans son dos et ses collègues lui ont fait signe plusieurs reprises.
Oui, ils sont dépités.
Ils essayent de lui faire signe. Mais...
Et il est sourd à tout et effectivement il continue. C'est à la fois téléphonie, à la fois c'est quand même très drôle de le voir s'auto-enterrer comme ça tout seul.
Mais il s'en sort bien quand même. Se retourne rapidement. Il se plante, mais il reprend tout de suite.
Toujours.
Il redevient droit et il reprend les affaires tranquillement. Hein. Vraiment. Il n'a pas honte.
Il est plus facile d'être Peter en étant Jack Nicholson que Peter en étant je sais pas trop quel acteur.
Jack Nicholson.
Je sais pas si c'est qu'il a pas honte ou si c'est pas plutôt ce qu'il dit un peu plus tard dans le film que ok il a peut-être fait une erreur mais il veut continuer à exercer son métier donc il est obligé d'aller au bout de cette histoire pour savoir qu'il lui a tendu un piège.
Bah oui, non mais c'est évident qu'il l'aime pas. Il pressent tout de suite qu'il y a un lézard, ça c'est évident. Rien ne le fera décrocher quoi en fait. Hein, c'est mais oui effectivement, je crois qu'il est il est teigneux en fait. Hein, il lâche pas le bout de gras une seconde, y compris dans au moment où ça devient très ambivalent avec Fade and Away, donc vers la fin du film plutôt, où bah il se laisse pas piéger quoi en fait. Ils sont tous les deux au lit. À nouveau il continue son enquête quoi. Il a jamais l'enquête quoi. Et je trouve que ça c'est effectivement très brillant. Oui.
Ben il garde la conscience qu'il est avec quelqu'un qui lui ment, donc c'est embêtant pour arriver à tirer des conclusions de son enquête.
Oui.
Je pense que tout le monde a aimé ce film, non ?
Oui. J'adore le film noir. J'adore Jack Nicholson. J'adore Faye Dunaway. J'adore quand il y a un bon scénario et qu'il y a une bonne réalisation derrière. Là, il y a à peu près tout ça fois deux.
Oui, puisqu'en plus, il y a un brio dans le rythme. Vraiment, je suis bluffée parce qu'effectivement, c'est long, mais ça paraît pas long. Moi qui suis toujours une adepte des ciseaux, et ben là, non, enfin, j'ai pas trouvé ça trop long, quoi. Ça prend le temps qu'il faut. Et j'adore les moments de lenteur qui sont toujours. C'est vrai que le scénario est archi bossé. Il y a toujours des retournements. C'est en permanence, ça va jamais là où on pense. Même si Luc a révélé beaucoup de choses en expliquant, mais c'est vrai. Non, mais moi, tu vois, je m'en rappelais plus du tout. Je l'avais vu il y a très très longtemps. Ouais. J'avais juste un vague souvenir quand il arrive dans l'orangerie. Je savais que ça finissait mal pour lui. Ça, je m'en rappelais.
J'ai pas spoilé. Hein. Enfin, il me semble que le dénouement. Enfin, il y a encore matière.
Il a pas tout dit.
J'ai pas dit qu'il avait tout dit. Toi aussi.
Il y a des strates. Bon, ils se battent pour de l'eau. Quoi. Enfin, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Moi, je sais. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Et je crois que je l'ai détesté. Voilà, voilà, c'est comme ça.
C'est la grande histoire que tu as entretien avec le cinéma, c'est-à-dire que à la fois tu aimes et tu détestes les films dont on parle.
Je
me rappelle pour Le Caire Confidential, c'était exactement la même chose.
Caire Confidential, j'ai adoré. Je trouve ça extraordinaire.
Et tu l'avais vu une première fois au cinéma
Oui, mais le Chinatown, c'est la troisième fois que je le vois. Je l'avais vu il y a très 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 longtemps, et là je l'ai revu avec énormément de plaisir parce que c'est effectivement au millimètre, c'est du grand cinéma. Les décors, c'est du grand. Mais je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher moi de penser à Roman Polanski dans ce film. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est terrible. Le film est tourné en 74. Son affaire, l'affaire Polanski, c'est 77. Trois ans après, dans le film, dans Chinatown, il joue le rôle d'un petit mafieux sadique. Et il apparaît pas longtemps. Hein. Il apparaît et c'est un vulgaire salopard puisque je sais pas si je spoil ou pas, mais c'est quand même grâce à lui que Nicholson porte un pansement tout le long du film hein, quand même. Hein.
Parce que c'est drôle heure, d'ailleurs, je trouve. Une espèce de
ça c'est le premier
protubérance.
Ouais. Ça c'est le premier truc. Fallait le faire d'ailleurs, porter un truc comme ça.
Ouais.
L'objet, un des sujets du film, un des drames du film. Ça nous renvoie quand même à l'affaire Polanski, qu'on le veuille ou non.
Oui,
trois ans avant.
Il
hein.
y a quand même la scène. Moi, tu sais, t'as la réflexion que je t'ai faite, tout, parce que quand on l'a regardée, il y a une scène, je fais, mais le réalisateur est misogyne sur ce plan-là. Et vis-à-vis de Faye Dunaway, et j'ai trouvé qu'il y avait une normalité dans le fait de la frapper, truc.
Exactement.
C'est le procédé pour ramener une femme à la raison. Quoi.
Ouais.
Et elle se laisse faire.
Le tabassage est.
Ouais, le tabassage en règle.
Elle fait mal.
Elle pleure, et parce que c'est vrai que c'est elle qui était une mauvaise femme, et que c'est normal quelque part. Et je l'ai vraiment pris, je l'ai analysé a posteriori. Sur le moment, il y a quelque chose qui m'a énormément dérangée sur cette scène-là. Et je me suis dit, eh mais oui, parce que les autres hommes, quand ils se fightent, comme tout le monde se fight. Mmh. Et elle subit. Ouais. Et il y a une normalité là-dedans. Quoi. Et j'ai trouvé qu'alors que c'était pas le même regard, quand. Enfin, ouais, c'est pareil, je vais pas raconter la fin. Il y a d'autres rapports avec des hommes où elle est pas dans ce. Elle est pas dans ce laisser-faire, je dirais. Mmh. Et là, je me suis dit, ah, cette scène-là.
Dis donc, Luc, là-dessus, je te remercie de nous avoir rappelé que l'affaire Polanski, c'était 3 ans après. Mmh. Parce que c'était. C'est le détail. Je me souvenais que c'était les années 70, mais quand.
Et ce qui est terrible,
ouais.
C'est que l'affaire Polanski, elle se déroule où? Dans la maison de Jack Nicholson?
Mais non.
Mais si. C'est dans la maison de Jack Nicholson. Mmh. Donc, quand tu vois ce film-là, tu es revisité par ça. Moi, je sais que cette affaire-là, elle me hante. Enfin, c'est terrible
Mais si je peux me permettre de revenir sur ce que tu as dit avant, tu as dit j'adore ce film et je le déteste, mais tu détestes pas le film. Le film, il est extraordinaire.
Le film, il est.
Par contre, le sentiment que tu nourris vis-à-vis de Monsieur Polanski.
Oui, peut-être que partageable en tout cas.
On est sorti un peu du cinéma, mais on est dans le cinéma. Le cinéma, il est produit par quelqu'un, donc.
Oui, et puis effectivement, on est emprunt. Surtout que maintenant, il y a des choses qui sortent. On sait bien qu'il y a plein de films qui sont comme ça, porteurs de choses absolument abjectes, de viols tournés en direct parce que les images sont plus vraies, de choses comme ça. Voilà, ça existe, quoi. C'est clair.
Oui, enfin, là, on est quand même loin du.
On n'est pas là, mais je veux dire, ça fait partie du cinéma. Je veux dire, Bertolucci qui demande à Brando.
De prendre le beurre.
Ouais, enfin, et de le faire vraiment, et de s'en prévenir la comédienne. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui existent. Faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, quoi. Là, effectivement, mais merci de nous avoir rappelé ça.
Ça fait beaucoup de questions posées dans ce film, parce que moi, j'avais aussi la question de qu'est-ce qu'un psychopathe? Parce que pour moi, c'est une des questions qui est soulevée. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, aller jusqu'au bout de quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que justement, avoir le pouvoir, l'argent, plus de limites, aucune limite, et puis d'un seul coup tu bascules dans quoi?
Alors moi je voudrais juste reprendre sur l'affaire Polanski. Moi je pense quand même qu'il faut aussi voir Polanski à travers toutes ses névroses, et des névroses il en a, parce que c'est quand même, quand tu connais son histoire, c'est quelqu'un qui a vécu... qui a vécu la Shoah, qui a vécu les camps, qui a vécu tout ça, qui a eu une grande histoire d'amour qui ne pensait pas pouvoir aboutir et qui n'a abouti que par une seule chose, c'est l'assassinat de sa femme qui était enceinte de leur enfant dans une maison aussi à Hollywood avec d'autres amis à eux. Et ça, c'était 3 ans avant, ou c'était 2 ans avant qu'il réalise ce film-là. Donc, moi, je suis plus pour qu'on prenne l'homme dans sa globalité, dans ce qu'il est.
Mais je pense pas qu'on ait dit le contraire.
Non, mais en fait, en disant... Moi, je suis là pour ramener cette histoire-là que les auditeurs ne connaissent peut-être pas non plus, et pour entendre que l'affaire Polanski, alors qu'avant l'affaire Polanski, il y a l'affaire Sharon Tate... Il y a les événements de l'histoire.
Après, moi, je veux dire, sincèrement, il y a toute la part... Je parlais tout à l'heure de Bertolucci parce que c'est directement sa part dans le cinéma. Après, ce qui est chaque personne, enfin, je veux dire, on est tous porteurs de notre sac à dos. Et quelque part, souvent, moins j'en connais, mieux je me porte par rapport à plein de... parce que les artistes, quand même, souvent des gros, tu disais psychopathes tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est des psychopathes.
Des personnalités troublées.
Voilà, on va dire ça. C'est joliment dit, merci Luc.
Et moi, je peux faire Jack Nicholson, quoi, l'élégance.
Mais je l'ai rapporté parce que c'était directement dans le tournage. Donc c'est pour ça. C'est là, on parle de cinéma, quoi. Mais... Après, effectivement, je suis d'accord. Si on parle que du film, le film, moi, je le trouve fantastique.
Il est brillant. Mmh. Il est extrêmement brillant. Beaucoup plus brillant que des films qui viendront bien après chez Polanski, qui sont beaucoup plus... The Ghostwriter, par exemple. Moi, je suis resté vraiment à côté. Hein. Il n'y avait pas que le fantôme de l'écrivain. Hein. Le cinéaste, il était aussi un peu fantomatique dans The Ghostwriter. Ou même des films, enfin, si je ne me trompe pas, il a réalisé aussi Amen. Je reste assez... Mais là, enfin, quand on regarde la longueur du film, on ne la voit pas. Plus de 2h10, 2h15, je crois, on ne la voit pas.
2h20, oui.
Bon, les décors sont insensés. Enfin, c'est insensé. Les reconstitutions historiques des années 30 est vraiment brillante. Il a deux comédiens qui sont au top du top, ouais, du top. On n'est pas dans Shining avec Nicholson qui fait ses simagrées. On est là dans un mec qui est vraiment droit comme comédien.
C'est le côté de Nicholson que j'aime, là, qui fait juste le minimum, mais du coup, c'est fort.
C'est le jeune Nicholson, celui qui sort de Shining son aussi. Travail avec Roger Corman. Mmh. Il a pas encore éclaté, il n'est pas encore devenu Jack Nicholson.
Mais c'est un comédien, moi je trouve un comédien magnifique. Oh. Faye Dunaway,
elle est très touchante.
Totalement déroutante. Enfin, elle est complètement dedans, quoi. Non, il y a plein de choses dans ce film qui sont vraiment éblouissantes. Le problème, c'est que moi je suis un spectateur dans le temps. Et qui est pas dans un temps immobile, mais qui est dans un temps d'une durée et qui a vécu. Et donc, je fais pas du. Enfin, quand je fais ces remarques-là, c'est pas un opportunisme circonstanciel, tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui m'importe. C'est que en voyant le film, je me dis, mais il y a un côté prémonitoire dans ce film. Il raconte ce qui va arriver. Mais c'est fou, cette affaire-là. Donc, voilà, voilà pourquoi je déteste. Alors, voilà pourquoi je déteste Roman Polanski. J'aime beaucoup le film. Hein. Je trouve que c'est un film brillant, ouais.
Ouais. Quoi, tout à l'heure, ton histoire de psychopathe, toi ?
Oh ben, je sais plus.
Alors moi, pourquoi je parlais de ce film qui est quand même disponible encore chez Paramount en DVD, c'est parce que les éditions Carlotta ont sorti un livre de Sam Wasson qui s'appelle The Big Goodbye, et donc sous-titré Chinatown et les dernières années d'Hollywood. Et c'est un livre qui est aussi entre enquête documentée et roman noir sur l'histoire de la création de ce film, avec Sam Wasson insiste là-dessus, la rencontre entre quatre personnes, dont le producteur. Voilà, donc moi je vous encourage grandement à lire ce livre, vous découvrez des choses affreuses et des choses moins affreuses. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ce film.
Ce qui est quand même surréaliste, c'est un film qui s'appelle Chinatown. Et il se déroule jamais dans Chinatown. Oui, c'est quand même assez extraordinaire.
Oui, mais c'est parce que les deux flics viennent de Chinatown.
Oui, enfin, même Nicholson.
C'est
Nicholson aussi.
Ouais, mais il se termine quand même à Chinatown.
Mais il se termine à Chinatown, qui est d'ailleurs un Chinatown très angélique.
C'est très propre.
Alors, Los Angeles, être angélique, c'est normal. si je peux me permettre.
Bravo.
Et oui.
Ça, c'est un Julien qui a envie de clore et passer à la suite.
En fait, on est pris par le temps. Ouais. Et là, maintenant, c'est l'heure d'écouter un peu de saxo. Alors, on y va.
Ça va nous changer.
1966. Trois ans déjà que George Lautner a réalisé Les Tontons Flingueurs. Film à jamais culte avec Lino Ventura et Jean Lefebvre. Deux ans déjà qu'il a fait tourner Mireille d'Arc et ce même Lino Ventura dans Les Barbouzes. Et voilà un film de pure castagne, accompagné de dialogues d'Audiard, du genre « Je critique pas le côté farce, mais pour le fair-play, il y aurait à dire ». Gérard Lautner propose donc à Mireille d'Arc, Jean Lefebvre et Lino Ventura un bien drôle de triangle amoureux avec en guest star les sieurs Michel Constantin, André Pousse et Robert Dalban, autant dire la fine fleur des seconds couteaux majestueux, celle des gangsters à l'ancienne, avec un romantisme confronté à un code de l'honneur qui ne s'assoit pas sur les baffes. Tout tourne bien entendu autour de la figure angélique, quoique colérique, de Lino Ventura. Lui, c'est un gars rangé des affaires qui a monté la sienne dans le sud de la France. Un peu impulsif, le gars, il voit ressurgir son passé. Il règle une vieille dette. Il en récupère une. La poisse. La poisse, c'est sa rencontre avec Jean Lefebvre. Un gars qui vit de petites arnaques sur les champs de course. Cette rencontre est suivie de celle du colonel anglais et de ses acolytes british, toujours smart, en motocyclette rouge. Eux, ils jouent de la pop et de l'explosif. Et ils veulent faire main basse sur un avion russe bourré d'or. Seulement, ils ont un peu trop croisé Jean Lefebvre sur les repérages. Ils le veulent, ils l'ordonnent à Lino Tonio Ventura. Et lui, il n'aime absolument pas qu'on lui donne des ordres. La bande originale de ce film pacifique est laissée au méconnu mais talentueux Bernard Gérard. Allons, ne nous fâchons pas. We'll be right back.
Ah là là, le saxo toups, on en redemanderait encore et encore. La semaine prochaine, on laisse la place à nos amis imaginaires. Je voulais juste signaler la sortie du numéro 213 de La Tête en Noir, le fanzine angevin dédié aux littératures policières, avec un supplément La Tête dans le Rétro. Voilà, vous pouvez aller sur la page Facebook du fanzine. Je vous dis à dans 15 jours, les amis. On remercie encore Shay Melka pour la sortie de son roman qui s'intitule, j'ai noté, Sarasqueta.
Waouh!
Sarasqueta, ma!
C'est à la manufacture de livres. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le site de Radio G pour en savoir plus. Bye bye!
Salut!
Hasta la vista!
Sayonara!